Saluer. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, l'initiative citoyenne alsacienne est une association qui s'est fixée pour objectif d'animer le débat politique en Alsace, de diffuser des idées qui touchent à la science politique, à la philosophie politique, de faire des propositions et de faire apparaître aussi des demandes citoyennes. Donc, nous avons, il y a 2 ans, lancé un manifeste pour la rénovation de la démocratie française qui a recueilli quelques 500 signataires de personnalités alsaciennes. Et nous faisons circuler en ce moment une pétition pour la création du Conseil unique d'Alsace. Pour ceux qui n'auraient pas ces documents, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Nous avons la chance d'avoir Christophe Boudot qui nous gère un site internet. Donc vous pouvez aller sur www.ica2010.fr et vous apprendrez tout sur nous. Et vous y trouverez aussi notamment cette pétition que vous pouvez signer directement sur le site. Il y a déjà, cette opération a été lancée il y a 2 mois, on a déjà plus de 600 signataires. Donc c'est une opération qui va se développer et à la rentrée on organisera une table ronde autour de ce sujet et aussi un moment festif. Bien. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Giorgio Ram-Federman. Ce n'est pas la première fois qu'il vient chez nous. Nous aimons toujours l'entendre, à la fois parce que ses idées sont très provocatrices, parfois politiquement incorrectes, comme nous le sommes aussi, mais fondées. Et voilà, je lui donne tout de suite la parole. Merci, Giorgio.
Merci Pierre. Merci à vous tous. Mais par fidélité à la République et parce que la proposition de nos élus nationaux de définir l'identité nationale me paraissait encore plus intéressante. Vous avez tous été participants, probablement, de ce projet. Hein. Qu'est-ce que l'identité nationale ou plutôt, gare à celui qui ne se reconnaîtrait pas dans l'injonction. Reconnais-toi dans ce modèle national non défini et peut-être indéfinissable, sinon gare à toi. Sinon, gare à l'exclusion. Et donc, l'écueil qui nous guette à tenter de définir l'identité nationale avant l'identité alsacienne, me semble-t-il, l'écueil, c'est celui de ce qu'on appellerait en psychologie la pensée autoritaire. La pensée autoritaire qui projetterait sans avoir à le définir, sans avoir à le commenter, dans un cercle sacré, si c'est possible, d'où serait exclue l'altérité, et qu'on n'aurait plus jamais la peine de définir, on n'aurait plus besoin de définir les limites du cercle, mais simplement, on aurait juste la peine de stigmatiser le bouc émissaire, pour se rappeler à nous-mêmes que nous sommes des bons identitaires, que nous sommes du bon côté de l'identité. C'est ça le risque de la définition de l'identité, c'est qu'il existe de fait une limite au-delà de laquelle l'autre n'est pas admis et en deçà de laquelle nous serions porteurs de privilèges particuliers qui sont en général offerts par la naissance. Donc l'Alsacien, c'est comme le noble, c'est celui qui est né Alsacien de ses parents. Alors c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. l'alsacien, ou en tout cas l'identitaire, c'est celui dont les enfants portent l'identité espérée. L'alsacien, c'est celui dont les enfants sont alsaciens. Le français, c'est celui dont les enfants sont français. Le juif, je fais un signe vers moi pour m'approprier le signifiant, le juif, de peur qu'il m'échappe. Je le rapproche de peur qu'il m'échappe, le signifiant juif. Le juif, ce serait celui dont les enfants sont juifs. Et ça, c'est intéressant par rapport à nos responsabilités politiques. On n'est pas juif de père en fils. L'identité juive, à mon avis, se revendique et se gagne pour parler d'elle-même. Mais vous verrez que, quelle que soit la forme d'identité qu'on convoque, on est confronté au même questionnement, me semble-t-il. Et donc, par rapport à l'identité juive, c'est intéressant, on a coutume de penser que l'identité juive se transmet génétiquement et qu'elle va nous coller à la peau éternellement. Or, je suis convaincu que le juif a comme fonction de se convertir en permanence. Peut-être, comme l'alsacien. C'est-à-dire qu'une identité pour moi, et c'est donc une premièreité, n'a de valeur et de vitalité que si celui ou celle qui la porte est capable de se convertir en permanence. Se convertir à quoi? Se convertir aux effets de la rencontre de la vie. Donc, ça vaut pour nos existences. Il est clair qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre à l'âge qu'il a être exactement le même que celui qu'il était il y a 40 ou 50 ans, ou il y a 60 ans. On peut, pour chacun d'entre nous, faire un point sur les étapes de sa vie et au fond, peut-être reconnaître les étapes de sa vie, les valeurs auxquelles on est resté attaché pour toujours. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très nombreuses. Et je me dis que celui que nous sommes aujourd'hui est le fruit de plusieurs connaissances, de plusieurs résurrections parfois. Pour reprendre ce qu'on a pu discuter tout à l'heure à table, de plusieurs résurrections, de plusieurs chemins de croix, de plusieurs sorties d'Égypte. Les Alsaciens sont, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont chrétiens préférentiellement? Au fond, la dimension religieuse est importante en Alsace. Ou est-ce qu'ils sont, comme Tommy Ungerer le suggérait à un moment, je vais raconter la blague, l'Alsace a été vendue à l'Allemagne, elle a été aussi vendue à la France, on aurait dû la vendre aux Juifs. Comme ça, elle serait restée dans la famille. C'est intéressant. Hein? Oui, c'est intéressant parce que ça renvoie à cette dimension vivante de l'identité comme un corps vivant. Et pas comme un sarcophage. Ou pas comme un mausolée. Mais comme un corps vivant. Et si corps vivant il l'est, probablement une partie de la définition identitaire va nous échapper. Même à nous, peut-être surtout à nous qui sommes particulièrement attachés à tenter de la définir. Hein? Qu'est-ce qui peut nous surprendre aujourd'hui dans la tentative de définir l'identité alsacienne? C'est ça que je vais tenter de vous proposer sur un mode parfois inattendu. Hein? Mais sur ce mode dynamique qui veut qu'à la fin de notre rencontre, nous ne serons plus les mêmes. Je serai devenu alsacien et vous, juif. C'est un risque qu'on prend les uns et les autres. Alors, comment commence cette histoire pour moi? une des étapes, c'est les dernières élections municipales à Strasbourg, hein, qui m'ont in fine désolé parce que je me suis rendu compte que, quelle que soit l'équipe qui était appelée à exercer le pouvoir, une fois à droite, une fois à gauche, souvent au centre, hein, si j'en suis les préceptes de Roland Ries, puisqu'il avait annoncé qu'on ne pouvait pas gagner à Strasbourg si on était à gauche. Il l'avait clairement annoncé dans son livre deux ans avant de lancer la campagne, hein, sur la gauche alsacienne. Au moment de ces élections, je me rends compte que Roland Ries est légitimé par, grosso modo, 15% des personnes en âge de voter dans le bassin électif strasbourgeois. Roland Ries, donc, au premier tour, doit obtenir 30 000 ou 35 000 voix. Et Keller, 5 ou 6 000 de moins, je crois. Hein. Quand on pense qu'il y a sur Strasbourg, sauf erreur, 210 000 personnes majeures, ça nous fait une proportion de légitimation très inquiétante. Puisqu'aujourd'hui, pour schématiser et pour radicaliser, on peut admettre que c'est 15% de personnes majeures qui légitiment l'équipe de Ries. Ça n'est pas une majorité démocratique. Alors, dans ce contexte-là, on avait réfléchi à quelques-uns avant de prendre la mesure de ce drame collectif, de ce drame civique collectif. On s'était dit, on va proposer un programme électoral sans liste. Sans liste, c'est ça qu'on avait fait. Hein. Et notre credo, c'était, on y croyait très fort à l'époque, notre, comment dire, espérance, c'était, notre première mesure, c'était inverser la marche du tram. On s'était dit, et je crois que c'est intéressant par rapport au sujet de ce soir, est-ce qu'on peut être alsacien aujourd'hui sans se mettre à la place de ceux qui habitent au terminus du tram, des lignes de tram aujourd'hui? Est-ce qu'on a imaginé comment fonctionne le tram? Est-ce que chaque jour, quand on emprunte ce transport en commun ou quand on ne l'emprunte pas, est-ce qu'on s'imagine de quelle manière les gens qui vivent, qui peuplent les extrémités des lignes de tram vivent? Et en quoi ces personnes sont nos frères et nos sœurs, civiquement? Et on pensait que non. On pensait qu'on n'imaginait pas la manière dont ces concitoyens vivaient. Et donc on avait préconisé d'inverser symboliquement la marche du tram. Et de faire en sorte que les gens du centre-ville n'hésitent plus à passer leur week-end dans les banlieues, à envisager se marier avec des gens, à faire des mariages mixtes, comme une fois à l'époque entre les juifs polonais et les juifs alsaciens. C'était un petit peu compliqué de se rapprocher jusqu'à très très récemment, hein, ou les Ashkenazes et les Séfarades. Hein. Très, très, très compliqué, oui. Hein. Sinon impossible. Hein. Hein. Lisez les lamentations du prépuce de Shalom Auslander. Lisez les lamentations du prépuce, vous vous rendrez compte que la seule communauté juive qui vaille, c'est la mienne. Toutes les autres ne sont pas cachées. Hein. Ça fonctionne sur le mode hyper communautarisé. Hein. On le voit bien dans ce livre, hein. mieux que chez Philippe Roth ou que chez Woody Allen, hein. Shalom Auslander, oui. Et donc on s'est dit, inversons la marche du tram, faisons ce pari, et donc peut-être que ça peut être sous cette égide qu'on va réfléchir ce soir. Et inverser la marche du tram, on a associé à ce projet différentes propositions, notamment celle de transmettre en direct le contenu des conseils municipaux. En les filmant et en les proposant sur Internet, on avait proposé la nomination d'un maire de la nuit à Strasbourg, sur le modèle de Amsterdam. Et donc, on s'était aussi dit, qu'est-ce qui qualifie l'Alsacien? Qu'est-ce qui le qualifie, pour moi qui suis pas né en Alsace, qui ne parle...
Je suis né, d'après ce que mes parents m'ont dit, au Maroc. Mes parents m'ont appelé Georges, je les ai crus sur parole. C'est aussi bien. Alors, qui est alsacien, c'est celui qui croit ses parents sur parole. Hein ? À beaucoup d'égards. Donc il y a une question de filiation aussi et de foi. Et de foi dans la parole, une parole originelle, hein, quelque chose qui n'est pas remis en question. Hein. Et donc, n'étant pas né ici, mais m'étant approprié une partie des symboles locaux et de la vie locale, et étant devenu alsacien quant à moi, c'est ce que disait tout à l'heure, celui qui est alsacien, c'est celui dont les enfants sont alsaciens, donc je vois pas comment me définir autrement que. Alors alsacien, peut-être strasbourgeois alors. Quoique non. Alsacien, ça reste approprié, je vais vous dire pourquoi. Hein. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des invariants ici. Et ce sont ces invariants que je vais vous faire partager. Tels que quelqu'un de l'intérieur a pu les reconnaître et se les approprier et les intégrer dans son patrimoine génétique à présent. Qu'est-ce qui m'a frappé ici? C'est la communauté juive, par exemple. Hein. J'ai été complètement stupéfait de lire, il y a 3 ans, Yossel, l'avocat des juifs. Écrit, enfin traduit par Freddy Raphaël il y a quelques années, et écrit par une Madame Stern il y a 50 ans. Donc Freddy Raphaël l'a traduit de l'allemand. Et en lisant Yossel, l'avocat des Juifs, je découvre l'histoire du judaïsme alsacien qu'on m'avait caché jusqu'à présent. Je pensais que le judaïsme alsacien commençait avec la Shoah. Hein? Que le judaïsme alsacien commençait avec la victoire sur le nazisme. Et je prends la mesure en lisant à Yossel, l'avocat des juifs, que le judaïsme alsacien est un judaïsme allemand. Bon, ce qui ne va pas pour nous étonner. Je fais toujours le lien entre le premier congrès sioniste à Bâle et la création de l'État d'Israël après la Shoah. Le congrès se tient en allemand. C'est vraiment extraordinaire ce lien entre le bourreau et la victime, hein, et ce patrimoine collectif qu'on pourrait utiliser maintenant en essayant de tirer les enseignements de l'histoire, hein, aussi bien du côté de l'adhésion au nazisme que du côté de la conviction que la création de l'État d'Israël était une nécessité. Que je ne crois pas du tout. Hein. Donc pour moi, ça fait partie de mon identité alsacienne, la création de l'État d'Israël est une victoire posthume de Hitler. D'autres l'ont dit, hein, comme l'ancien président de la Knesset, dont le nom m'échappe, mais ça va prendre. C'est Bourg, hein, ouais. Ouais, c'est Bourg, Abraham Bourg. Hein. Donc il y a une permanence. Il y a une permanence d'un noyau d'antisémitisme, pas très important, mais qui existe de manière permanente et qui est une qualité européenne. Et je fais le lien avec l'Alsace tout de suite parce que nous sommes des Européens aussi. Ça veut dire que l'Alsace, elle nous apporte le modèle avant l'heure de l'Europe. De l'Europe nécessaire, non pas en construction, de l'Europe de fait. Tout comme les communautés tziganes nous l'apportent. Hein. Qui est alsacien? Celui qui se reconnaît comme un cousin des tziganes. Aussi, hein, de fait. On n'a même pas à le prouver, c'est de vitalité. Et donc, je prends cette mesure, certainement de manière parcellaire, que quelque chose est caché. Il faut aller l'extirper, le découvrir, hein, et que sur le modèle de l'histoire des Juifs alsaciens, il y a d'autres.